Content que vous soyez là. Vous savez, on peut s'attendre à toutes les fois qu'on attend, qu'on ouvre la parole de Dieu. Là, je ne parle pas juste ici à l'église, personnellement, à rencontrer le Dieu vivant, parce qu'il se révèle dans sa parole. Et savez-vous, c'est une prière. On écoutait un message, un petit, il n'est pas très connu, là, un certain Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ceux qui le connaissent, on écoutait un message de lui, puis il dit, si vous prêchez pas Christ, si vous rencontrez pas Christ en lisant les Écritures, vous passez à côté de l'essentiel. Dieu révèle qui il est dans les Écritures et Christ est la pleine révélation. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et on s'en va dans la révélation de Jésus-Christ ce matin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'Apocalypse. OK? Les anglophones ont compris, parce qu'en anglais on dit « revelation ». En fait, le mot « révélation », c'est pas mal. Apocalypse, c'est le mot grec, c'est le mot, nous on dit ça, on connaît maintenant. Mais ça veut dire le dévoilement. C'est pour ça qu'on dit « révélation ». Tu sais, quand il y a une œuvre d'art là, qui est, mettons, comment on appelle ça, un vernissage, il y a une œuvre d'art là, qui est prête, soit une statue, soit un cadre. C'est là, puis là, il y a un voile dessus, et là, relève, tout le monde vient, puis là, c'est une grande réception, puis là, il enlève le voile, puis les gens peuvent voir l'œuvre. Ben, l'Apocalypse, c'est ça. C'est Christ qui est venu sous le voile d'un corps humain hein, pendant 33 ans ici sur la terre. Et l'Apocalypse, elle enlève le voile. Là, on voit Christ dans toute sa majesté, dans tout ce qu'il est. C'est ça, l'Apocalypse. Et justement, on va voir quelque chose là-dessus avec deux versets. On va commencer au chapitre 4 et le verset 8. Deux versets sur la sainteté dans l'Apocalypse. Ils sont vraiment puissants. C'est des versets d'introduction, ça veut pas, c'est pas les versets qu'on va regarder durant le message. On va regarder quelques textes ensemble. Donc, Apocalypse chapitre 4 et le verset 8 nous dit « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. » Ils ne cessent de dire jour et nuit. Alors, c'est lui qui pensait que seulement dans Ésaïe que ça disait ça. Ça dit dans l'Apocalypse, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Wow! Ça, c'est tout qu'un verset. Puis aussi 15, on est dans l'Apocalypse encore, chapitre 15, verset 4. Un autre verset sur la sainteté de Dieu.
15 de quoi?
Verset 4.
Merci.
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. On te remercie, Seigneur, que tu nous permets de consacrer les quelques instants qui suivent à toi, ta parole. Et Seigneur, on te l'a prié. Tantôt, on a besoin que tu te révèles à nous, que tu exhales devant nos yeux le grand Dieu que tu es. Seigneur, tu l'es déjà, tu es incomparable, mais on veut, Seigneur, l'apprécier d'une façon fraîche et puissante ce matin. C'est notre plus grand besoin de voir, de te voir, toi, tel que tu es, Seigneur. Alors, puisses-tu élever le Seigneur Jésus devant nos yeux? Et que vraiment, Seigneur, tu fasses une œuvre extraordinaire au milieu de nous et dans notre province, notre nation, qui est tellement désespérée, qui est dans les ténèbres. On te prie, Seigneur, que tu rafraîchisses notre vision de toi, qui est notre lumière et notre salut. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu vraiment deux références, c'est pas les seules de l'Apocalypse, mais deux références particulièrement puissantes. La sainteté de Dieu dans l'Apocalypse. Et c'est bien opportun parce que, comme je disais, c'est la révélation, c'est le dévoilement de Jésus-Christ. Et donc, Jésus, on voit, il est incomparable. Il est révélé comme étant celui qui est incomparable. Vous savez, les gens, des fois, en s'en tenant juste aux évangiles, vont un peu réduire Jésus. Certains l'appellent ça le syndrome du Jésus de l'école du dimanche. Le petit Jésus de la crèche ou celui qui était là puis qui se promenait puis... Puis, je veux dire, c'est pas une bonne compréhension du Jésus des Évangiles quand déjà en partant, là, mais quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte, wow, il y a plus que juste quelqu'un qui marchait sur terre, qui faisait des miracles. C'est vraiment Dieu dans toute sa sainteté qui nous est révélé là. Et Mon introduction, c'est à peu près ça. C'est vraiment directement, je vais aller dans le vif du sujet. On parle de la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament. J'avais dit la semaine passée, hein, que j'avais, je pense que j'avais déjà annoncé le titre. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est le même Dieu, là. Il n'y a pas deux dieux. C'est un Dieu qui se révèle dans toute la Bible. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On y va juste de façon systématique. On a vu la semaine dernière à travers, hein, vous rappelez-vous, la vie de Moïse, de David, Uzza et d'Ésaïe. Aujourd'hui, on y va dans le Nouveau Testament et on commence avec Jésus lui-même. On va avoir trois illustrations de la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament. D'abord, dans Luc 1, avec Jésus lui-même. Et juste, je vais aller prendre une expression. On va lire, c'est juste un assez court verset. La sainteté de Jésus-Christ. On peut dire la sainteté propre, la sainteté intrinsèque. Je veux dire, Jésus, là, ça fait partie de sa nature, la sainteté. Il n'y a pas besoin de l'avoir de quelqu'un. C'est pas quelque chose qu'il reçoit de l'extérieur. C'est sa nature même d'être saint. La sainteté propre de Jésus-Christ. Luc 1, 35, regardez ce que ça dit. Ici, c'est au tout début du récit de la vie de Jésus. J'ai dit 35 ou 38? C'est 38 que je voulais dire. Donc, Marie dit, je suis la servante... Non, c'est 35. Excusez. Je me mêle moi-même. Ça commence bien. Je commence à m'enfargeant. C'est pas grave. On continue. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, on voit déjà celui qui devait naître, qui a été annoncé par l'ange ici, n'était pas n'importe quel enfant, c'est un saint enfant, un enfant incomparable, un enfant qui est mis à part. Et on sait que c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y a tellement d'exemples dans la vie de Jésus où est-ce qu'on voit comment il est saint, il est incomparable et à part. Je vous donne des exemples, je vous les donne en rafale, on ne va pas tourner dans toutes les références, ça serait trop long. Mais savez-vous que même les démons qui détestent Jésus reconnaissaient qu'il était saint? Par exemple, dans Marc 1 puis dans Luc 5, à Capernaum, il y avait un démoniaque et le démon l'appelait le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ou encore, Simon-Pierre, là on parle plus de démon, là on parle de un de ses apôtres, de ses disciples, était tellement convaincu de la sainteté de Jésus-Christ que lorsqu'il l'a vu, pour qui il était, il a dit « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Un peu comme on a vu avec Ésaïe la semaine dernière, la présence même de Jésus le convainquait. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment il était absolument différent. C'est une expression de sa sainteté. Les foules reconnaissait la sainteté de Jésus. Par exemple, lorsqu'il a ouvert les oreilles, la bouche, pardon, à un homme muet dans Matthieu 9, 33, la foule s'est exprimée. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Voyez-vous? Encore là, l'expression qu'il est incomparable, qu'il est unique en lui-même. Parfois, c'était plus du côté négatif, OK? Il y avait un émerveillement, mais qui s'exprimait par le doute. Par exemple, quand Jésus, dans Marc 2, il dit à l'homme paralytique qui ont descendu par le toit, il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » OK? Et les gens, c'est quoi la réponse? « Qui peut pardonner si ce n'est que Dieu seul? » Ils reconnaissaient qu'il y en a juste un qui pardonne, c'est Dieu. Donc, voyez-vous, ils reconnaissaient que Jésus n'était pas comme les autres. Bon, ils ne le reconnaissaient pas par la foi, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent. Il affirmait qu'il était unique parce que ça le dit, il se faisait égal à Dieu, évidemment parce qu'il est Dieu. En somme, tout ce que Jésus disait puis faisait pointait constamment à sa sainteté qui lui est propre. Ça fait partie de sa nature, ok? Donc, puisqu'il est saint, tout ce qu'il faisait, ce qu'il touchait, ce qu'il faisait était saint, ok? C'est une relation directement de cause à effet. C'est pas resté juste de même, puis que les gens disent « Ah oui, c'est beau, ça a même soulevé la passion meurtrière de ses adversaires. » On le voit le plus, on le voit dans tous les évangiles, mais on voit vraiment là, l'ascension de tout ça, de cette colère, de cette tension dans l'évangile de Jean. Et là où on voit la tension qui monte d'un cran, vraiment, c'est lorsque, bon, ça l'a monté encore plus après, mais dans Jean 9, avec l'homme aveugle de naissance que Jésus a guéri. Puis là, les pharisiens ne savaient plus trop donner de la tête. Ils demandent des questions à lui, ils demandent à ses parents. Puis là, à un moment donné, ils demandent à lui, il dit, c'est qui t'a fait ça? C'est qui t'a guéri? Puis là, l'homme, il dit, ben, un homme ne peut pas faire ça. Je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Fait que je sais pas c'est qui, mais c'est pas... Puis là, c'est drôle parce que la réponse est... Toi, t'es né tout entier dans le péché, puis tu nous enseignes, puis là, ils le font partir. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, là. Quand cet homme a été chassé de la religion des hommes, le verset suivant, il a été accueilli par Jésus-Christ. Puis il l'a reconnu. Savez-vous que c'est la plus grande grâce qui peut arriver à quelqu'un d'être chassé d'une religion vaine d'hommes pour être accueilli par Jésus le Sauveur?
Amen.
Ceux qui n'ont pas lu le livre... En a-t-il une copie ici? Seeking Allah, Finding Jesus. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais c'est tellement bon. Mais c'est ça. C'est un musulman bien sincère qui, vraiment, de tout son cœur, voulait adorer le Dieu que lui connaissait, duquel il avait été, dans la religion dans laquelle il avait été élevé, la religion musulmane. Puis, le tournant de sa vie, c'est justement, c'est quand il a tourné le dos, quand il a vu que sa religion était vaine, et c'est là qu'il a rencontré son Sauveur, qui est incomparable, qui est saint. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Wow! Ah, mes amis, il y a tellement d'autres manifestations sur la croix même, Jésus. Les gens disent, ah, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende maintenant de la croix, puis on va croire en lui. Savez-vous que même ses ennemis qui se moquaient de lui, reconnaissaient qu'il y avait quelque chose de spécial avec lui, parce qu'il disait, lui qui dit être de Dieu, puis bon, c'est une aberration parce que la croix, c'est l'apogée de l'œuvre de Christ. Puis d'autres disaient de descendre, ils ne comprenaient absolument rien. Jésus, il n'y a rien qui peut le faire descendre de la croix parce que lui-même allait dessus pour accomplir la grande œuvre de sainteté puis de grâce que Dieu accomplissait. Maintenant, la sainteté de Jésus-Christ, non seulement on le voit dans sa vie, je viens de donner plusieurs exemples, mais savez-vous que ceux qui l'ont suivi, les apôtres, oh mes amis, ça ressortait beaucoup dans toutes leurs prédications. Par exemple, la première prédication, celle du livre de la Pentecôte dans Acte 2, puis aussi s'y repris dans Acte 13, les deux sermons ont comme point tournant, comme point central, psaume 16, 10. Où est-ce que ça dit qu'il y a d'abondante joie devant la face du Seigneur, puis que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption? Et donc, les apôtres proclamaient la résurrection de Jésus comme étant la manifestation de sa sainteté. Ils ne pouvaient pas voir la corruption. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Toutes les autres, vous savez quoi? Tout le monde, on va tous mourir, on va tous voir la corruption. C'est-à-dire que notre corps va pourrir. Bon, là, peut-être que je devrais reprendre mes paroles. Je pense qu'on va être enlevé. En fait, c'est probablement ce qui va arriver. C'est tellement bon. Je ne sais pas, là, mais j'espère, en tout cas. Mais si on meurt selon la façon traditionnelle, normale de mourir, notre corps va voir la corruption. Mais Christ est ressuscité des morts. Et donc, qu'est-ce qui amenait? C'est qu'il amenait la résurrection comme la preuve que Jésus est le saint, le prophète, le Messie, celui qui devait venir, puis qui ne pouvait pas voir la corruption parce qu'il a vaincu la mort. Il n'a pas été vaincu par la mort, c'est lui qui l'a vaincu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour nous ce matin? Première application, allons dans Apocalypse, on retourne, mais au chapitre 1 cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du fait que Jésus est saint comme ça? Je veux qu'on aille dans le premier passage de l'Apocalypse qui nous enlève le voile. Dès le début de l'Apocalypse, on enlève le voile. Puis regardez, vous allez voir. Apocalypse 1, verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite, sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Pour ceux qui ne l'ont pas pogné, là, c'est Jésus-Christ qui est là, là, OK? C'est la révélation de Jésus-Christ au tout début, comme je le disais. Donc, la gloire, la sainteté de Jésus n'est plus voilée sur le corps humain, mais elle est pleinement révélée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? C'est ce qui doit nous émerveiller, c'est ce qui doit nous conquérir. On chante dans un verset que j'ai revisité ces derniers temps, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ton amour divin surpasse. Hein? Puis la façon qu'on chante, c'est pas, en tout cas, je ne chante pas de la bonne manière, parce que c'est de la faute du Cantique Nouveau, le ministère Cantique Nouveau, ils l'ont changé, puis là, je me suis comme habitué à l'autre version, mais bon. Puis ça dit dans ce cantique-là, je pense que la première strophe, à la toute fin, ça dit « Ton amour nous a conquis ». Et savez-vous quoi? On dit « Ouais, mais c'est quoi l'application pour moi que Dieu, Jésus-Christ est saint? » Juste méditez là-dessus. Remplissez votre cœur, votre vision spirituelle de qui Dieu est, de comment il se révèle en Jésus-Christ. Juste arrêtez-vous là-dessus, là. Mes amis, c'est ça la clé de la victoire. Jésus a dit lorsque le Fils, puis là c'est un principe, mais ça dit lorsque le Fils de l'homme va être élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Il parle de la croix, OK? Mais le principe spirituel, ou comme ça dit aussi, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, lorsqu'on élève Christ devant nos yeux, ou pour prendre une autre expression qui là serait beaucoup plus précise pour nous, si vous êtes ici comme en tant que chrétien, lorsqu'on regarde à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, puis dans le contexte, on regarde à la croix, parce que c'est dit ayant à la croix, puis maintenant ressuscité, quand on regarde à lui, quand on remplit notre vision de celui qui est mort, qui est ressuscité, puis maintenant qui est vainqueur, triomphant, lorsque ça devient, que ça sature nos pensées, mes amis, il n'y a rien qui peut nous faire peur, il n'y a rien qui peut nous ébranler, c'est là la victoire. Demandez-moi pas comment, mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est drôle, depuis le temps de prière, c'est ça qu'on prie. Dieu, exalte-toi devant nos yeux, donne-nous une vision fraîche et puissante de qui tu es. Il l'est déjà, mais c'est nous qui avons besoin de le voir tel qu'il est. Ça, mes amis, il y a quelque chose de transformant, de puissant pour chacun de nos cœurs ici. Non, mais là, je voulais du pratico-pratique, puis trois étapes pour avoir la victoire. Non, tu as besoin d'une étape, c'est de regarder à Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ta foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on s'en va dans Acte 5. Non seulement la sainteté de Jésus-Christ, mais la sainteté de Dieu aussi dans l'Église. Acte 5. La sainteté de Dieu dans l'Église. On va lire les 11 premiers versets. Vous connaissez l'histoire, je veux qu'on se la remémore un peu. Ananias et Saphira.
À 11, vous avez dit?
Ouais, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il trompé ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens qui s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La sainteté dans l'Église. Le péché ici, c'est l'hypocrisie. On peut dire le mensonge, l'hypocrisie. L'hypocrisie est une forme de mensonge. Ils ont voulu prétendre être ce qu'ils n'étaient pas. Et ce péché faisait rentrer la pensée, l'attitude et le caractère de Satan lui-même dans l'Église, à travers la chair puis le monde. OK? Pour être plus précis, il faisait rentrer ce caractère dans l'Église du Dieu trois fois saint. Voilà pourquoi c'était tellement grave et que Pierre est un instrument de Dieu pour montrer une sainte intolérance. Je veux dire, ça n'a pas été toléré, là. Boum, ils sont morts. OK? Pourquoi? Parce que c'est un péché grave. Et je l'ai déjà expliqué. C'est parce qu'aussi l'Église était naissante. Dieu voulait donner le ton pour dire c'est grave le péché dans mon Église. Je ne veux pas que ça soit pris à la légère. Maintenant, la sainteté dans l'Église, c'est primordial parce que c'est ça qui nous protège contre la grande menace de l'hypocrisie. Puis c'est quoi le reproche qu'on entend le plus du monde sur les chrétiens puis les églises? Ah, ils sont hypocrites. Et savez-vous que c'est contre la nature même de l'Église? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'inverse du mensonge puis de l'hypocrisie. Puis vous regarderez Éphésiens chapitre 1 à 3. Comment l'Église, c'est le corps de Christ, puis notre tête, Christ est le chemin, la vérité, la vie. Qu'est-ce que le corps a à faire avec l'hypocrisie puis le mensonge? OK? Maintenant, le péché, j'ai dit, c'est l'hypocrisie, le mensonge, mais aussi on peut retracer ça à Jacques 1:8, être irrésolu. Il voulait servir le Seigneur, mais en même temps, il voulait l'acclamation des hommes bien paraître. Il voulait deux choses en même temps. Il était littéralement dipsycho, deux pensées, double-minded. Il y avait deux pensées, il était tiraillé, OK? Et le pire là-dedans, puis ça a été souligné par Pierre lorsqu'il parlait au mari, à Ananias, il dit, vous avez péché contre le Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint. C'est une offense à la sainteté de Dieu. C'est un acte potentiel pour amener le levain dans la communion fraternelle de l'Église locale. C'est pour ça que ça a été pris aussi au sérieux. Je vous explique, parce que là, je suis encore à l'explication, en train de comprendre ce qui arrive ici. Dans le verset 36 du chapitre 4, avant, on voit que Joseph, qui était nommé Barnabas, a fait un don généreux. Il avait vendu son champ, il avait tout donné. Okay? Et ça, mes amis, ça avait le potentiel d'être contagieux. Hein? C'est une générosité, genre, waouh, waouh, puis on sait, hein, l'Église était caractérisée par ça. Il dit, chacun a... Il partageait puis il mettait les choses en commun de façon volontaire. Donc ça, c'était le côté positif. Mais d'un autre côté, cette attitude d'hypocrisie, d'être irrésolu, de ce couple, menaçait de renverser cet effet positif puis l'amener vers la destruction de cette Église qui était toute naissante. Et du coup, ça posait un geste qui était un affront à la sainteté et à la pureté de l'Église, à sa différence dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens auraient dit? Ah, ils ne sont pas mieux que les gens de la synagogue. Parce que c'était des Juifs, là. Fait qu'ils auraient naturellement comparé à la synagogue. Mais pour nous, on pourrait dire, ils ne sont pas mieux que l'Église catholique. Comprenez-vous? Dieu voulait dire, non, il y a quelque chose de différent. C'est mon Église, c'est l'Église du Dieu vivant, du Dieu saint. Et donc, il faut comprendre, la réputation ici qui était en jeu, c'était pas tant celle d'Ananias et Saphira, malgré qu'elle l'était, mais c'était celle du Dieu trois fois saint. C'était ça qui était le danger ici. C'est la réputation de Dieu lui-même.
Est-ce qu'on parle du blasphème contre le Saint-Esprit?
Non. Faut pas croire, là je suis rendu à l'application, faut pas croire que notre hypocrisie, on est tous enclins, ça fait partie de notre nature pécheresse, Notre hypocrisie ou le fait qu'on a tendance à être irrésolu, il ne faut pas croire que c'est sans conséquences. Il y a toujours des conséquences. Peut-être pas qu'on va être frappé de mort, parce que, bon, Dieu, je crois que ça, pour répondre un peu à la question, c'est un péché qui mène à la mort. Vous irez voir dans 1 Jean chapitre 5, un péché puni de mort. C'est-à-dire que Dieu décide que ce péché-là, c'est la fin pour toi. C'est dans ses plans souverains, dans sa sagesse, il sait quoi faire. Parce qu'en passant, fallait tout être jugé pareil, il n'y aurait plus personne dans l'Église. Parce qu'on est tous hypocrites et irrésolus. Puis, je veux dire, ça n'aurait pas été long, l'histoire de l'Église. Là. Okay? C'est un acte souverain de Dieu parce qu'il y avait son plan qui est en train d'exécuter. Maintenant, écoutez bien. J'ai dit qu'il ne faut pas penser que notre hypocrisie et le fait d'être irrésolu, c'est sans conséquence. Pourquoi? Parce que ça tarit la réputation de Dieu comme étant celui qui est incomparable, qui fait des choses incomparables. Et ça range son œuvre avec le reste des autres œuvres qui sont pas plus spéciales que ça. C'est ça le problème ici. Ça rend l'Église de Dieu comme une œuvre humaine, comme une œuvre juste pas plus spéciale que ça. C'est ça le problème ici. Première chose. L'autre chose que je veux qu'on remarque. Au verset 11, on l'a lu, ça dit « Une grande crainte s'empara, puis remarquez bien, de toute l'assemblée, ça c'est les chrétiens, et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Ça, c'est tout le reste du monde, parce qu'il y a une distinction ici. Donc, chrétiens et non-chrétiens. Les gens, ils étaient saisis de crainte. Ça l'a dépassé les murs de l'Église. Et écoutez bien, quelque chose d'important à comprendre ici avec ça. OK, le jugement de Dieu était tombé, ça l'a suscité la crainte. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les non-croyants craignaient de s'approcher de cette église-là n'importe comment. Ça l'a amené cette crainte-là, OK? Ils craignaient, ça les gardait loin de l'église. Puis les chrétiens, ils craignaient de s'approcher du monde. Savez-vous que c'est bon et que ça devrait être demain? Ah non, on ne veut pas que les gens aient peur d'aller à l'église. Non, on ne veut pas que les gens aient peur d'aller à l'église. Mais on ne veut pas que les gens prennent l'église du Dieu vivant pour n'importe quoi, par exemple. C'est ça la question. OK? Et, mes amis, je pense qu'ici, il y a quelque chose de tellement révélateur pour nous dans l'époque dans laquelle on vit. N'est-ce pas une tragédie qu'en ce moment, que Dieu révèle avec la crise, et comme je dis souvent, c'était déjà là, mais Dieu le révèle, mais la crise qu'on traverse, quel malheur de voir le monde traiter l'Église comme quelque chose de pas essentiel, comme quelque chose de profane, quelque chose qui n'est pas différent. Ils n'ont pas de crainte. Comme si l'Église de Dieu, c'était... OK? Mais quelle honte de voir le peuple de Dieu être tellement conforme au siècle présent, de ne pas se tenir pour ce Dieu trois fois saint, puis son Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes hypocrites face à celui pour lequel nous devons nous tenir parce que nous le représentons. C'est pas notre réputation l'important. Ah, qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, mais mon témoignage, puis notre témoignage. Mes amis, c'est pas notre témoignage qui est en question, c'est celui de Dieu. Amen. C'est quand qu'on va comprendre ça, que ce qui est en jeu, ici, il y a deux personnes qui sont mortes parce que c'est la réputation de Dieu qui était en jeu. Donc, Dieu a pris au grand mot les grands remèdes. Et en ce moment, avec ce qu'on vit, il y a un affront à la tête même de Christ, l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas de crainte de l'œuvre de Dieu, puis les chrétiens n'ont pas de crainte du monde, puis n'ont pas de crainte de Dieu non plus. Non, la crainte du monde, pas de crainte de Dieu, excusez. Mais ils n'ont pas de crainte de s'approcher du monde, de penser contre le monde. Mais je pense qu'on est loin de ce que Paul a dit. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de me garder jusqu'à ce jour-là. On est loin de cette conviction. Donc, voyez, comprenez, là, quand on parle de la sainteté dans l'Église de Dieu, comprenez-vous ce qui est sous attaque ici? Voyez-vous comment c'est une démonstration que tout ce qu'on voit, puis ce qui nous arrive en ce moment, OK, on doit l'interpréter à la lumière du fait que Satan s'attaque à Jésus-Christ, qu'il déteste plus que toute autre chose, mais il ne peut pas toucher à la tête. Christ est invincible, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, donc il s'attaque au corps. Il s'attaque à nous. Il s'attaque à ce qui est visible. Et mes amis, l'heure est grave. Et c'est quoi que Satan veut faire de cette manière-là? Il s'attaque à la sainteté de Dieu. Il veut montrer qu'il n'y a rien d'incomparable, de bon, de juste, de tout-puissant au sujet de ce Dieu, de cette Église, de Jésus-Christ. C'est ça qu'il essaie de démontrer. Les gens n'ont pas une haute opinion du Dieu, de l'Église. C'est ça qu'il veut. Il s'attaque. Il ne faut pas voir l'attaque contre nous autres, il faut voir l'attaque contre Dieu. Parce que nous, on n'est pas très impressionnants pour notre ennemi Satan. Je veux dire, on est juste des créatures. Mais en Jésus-Christ, puis celui qu'on représente, puis notre tête, il tremble. C'est pour ça que quand on prie au nom de Jésus, même, les démons tremblent. Pourquoi? Parce que on se rattache à celui qui est vraiment important. Nous, on n'est pas d'importance, mais Christ, il l'est. Et c'est ça qu'il faut voir sur la question de la sainteté, de l'Église, de Dieu. On est mis à part dans ce monde. On ne doit pas être traité comme n'importe quoi parce qu'on n'est pas n'importe quoi. On est l'épouse, l'Église du Dieu vivant. Et savez-vous quoi? Non seulement il veut s'attaquer à Dieu, mais si comme Église on se tient, puis on sait en qui on a cru, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Non seulement le témoignage de Dieu va être défendu, mais Satan va être démasqué pour qui il est. Un menteur, un meurtrier. Pourquoi qu'on a peur de dire ça? On donne raison à Satan quand on se cache dans notre coin. On a plus peur de Satan que de Dieu, comprenez-vous? Il y a vraiment quelque chose ici de totalement perverti par rapport à qui est Dieu et son Église. Où sont les chrétiens qui croient? Où sont les leaders? J'ai partagé quelque chose là-dessus. J'ai pas inspiré mon message là-dessus, mais j'ai trouvé ça bon. Si vous l'avez vu, je pense que ça amène la matière à réflexion. Maintenant, je vais amener une troisième illustration qui amène encore plus ce point-là. Non seulement la sainteté de Christ, la sainteté dans son Église. Mais mes amis, je viens d'en parler un peu, mais je veux développer la chrétienté moderne. Et voici le problème que je vois. On s'est rangé du bord du monde, de Satan, en faisant de l'homme le centre. Troisième point, 1 Corinthiens chapitre 5. La sainteté de Dieu dans la chrétienté moderne. On a parlé la semaine passée avec Ésaïe. C'est quoi l'idée de la sainteté? C'est que Dieu est au centre comme il devrait l'être, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un Dieu qui est en périphérie. « Ah, Dieu, si j'ai besoin de toi, je vais te sortir. » Un peu comme on frotte la lampe d'Aladin, puis on fait un vœu, une petite prière, puis Dieu nous aide. Ça, c'est comme ça que le monde voit Dieu. Mais en tant que chrétien, là, c'est pas ça. Dieu, on doit être renouvelé, transformé par un renouvellement de notre intelligence, parce que Dieu est tout. Sans lui, on n'est rien. Il est le centre, il est le commencement, le milieu, la fin, l'alpha et l'oméga. N'est-ce pas ça que Dieu révèle être?
Amen.
Pour vous dire comment on a passé à côté de l'essentiel. Donc, la grande erreur qu'on a faite, parce que le monde, c'est la pression. Le monde, hein, c'est l'humanisme, puis l'homme est la mesure de tout. L'homme est le centre de l'univers. Et quelle honte que l'Église moderne, la chrétienté moderne, est tombée dans le panneau. Regardez la chrétienté moderne, comment ça met l'homme au centre, ses besoins. Regardez la littérature chrétienne, la psychologie chrétienne, les cultes d'adoration chrétienne, c'est tout ce qui est bon pour l'homme. On va juste regarder un verset dans 1 Corinthiens 5, on va regarder après d'autres, mais juste pour voir d'abord le verset 6. C'est bien, vous êtes là, 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien en tant que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? La sainteté de Dieu dans la chrétienté moderne. Vous savez, un peu comme dans Actes 5, le problème c'était, je l'ai dit, hein, hypocrisie, être irrésolu. On pourrait dire aussi l'irrévérence. Il n'y avait pas de crainte de Dieu. OK? Pas mal le fil conducteur avec Moïse, c'était ça, on l'a vu avec Uzza la semaine passée. Et c'est une attitude contagieuse, ou pour le dire ici, selon les mots, c'est un levain. Vous savez, c'est quoi le levain, hein? Comme la levure, bon, c'est un type du péché, mais l'idée, c'est la contamination. On prend toute une masse de farine mélangée avec l'eau, on met un peu de levain, ça lève tout. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est une image de ce qui arrive dans l'Église lorsque c'est une influence malsaine est tolérée. Ça l'affecte tout le monde. J'aimerais développer ça pour quelques instants. La chrétienté moderne est extrêmement fragile parce qu'elle est très susceptible de continuer dans cette attitude charnelle qui était chez les Corinthiens. C'est quoi cette attitude charnelle? Paul en appelle... OK, parce qu'eux autres, là, ils se vantaient de tolérer le péché. Okay, les Corinthiens, là, « Ah, nous, on est spirituels parce qu'on on a vu ensemble un Corinthien, là, je pense, ça fait un an ou deux, on a passé à travers de façon systématique, je ne vais pas tout revisiter pourquoi que je dis ça, mais dans le contexte, on comprend que c'est ça. Ils se vantaient de tolérer, d'être tolérants. Mais ce que Paul leur dit, c'est que, « Hey, quand vous avez cette attitude-là, mes amis, vous vous attaquez à la sainteté même de Dieu dans l'Église. Vous tolérez du levain qui fait lever toute la pâte. » Et donc, ça l'infectait l'Église au complet. Et regardez ce que Paul dit à ce sujet-là. Okay? Il dit, on a vu au verset 6 que un peu de levain fait lever toute la pâte. Regardez versets 7 et 8. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc, c'est clair, on est appelé à purger. On ne devrait pas tolérer, c'est ça, on ne devrait pas tolérer le péché, puis pas nécessairement juste les péchés flagrants, ceux qui tapent à l'œil, mais les péchés d'attitude. C'est ça l'idée. « Ah, voyez-vous, nous autres, on est ouverts, on est tolérants. » Il y a un péché là-dedans d'appeler bien ce que Dieu appelle mal, puis avoir une attitude comme ça qui tolère ce que Dieu déteste. C'est ça ici que Paul dénonce. Regardez aussi versets 9 à 11. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, quand il parle de purger cette attitude ici, il clarifie que c'est pas de juger le monde et tout ça, mais il parle dans l'Église de ceux qui se disent frères. C'est l'expression clé. Quelqu'un qui se dit en frère, se dit être chrétien, mais qui vit dans ces choses, qui est caractérisé par ces choses. Et on a une dernière clarification, versets 12 et 13. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc, l'ordre est clair. La responsabilité de l'Église, c'est de garder la sainteté dans l'Église. Le fait que Dieu ne tolère pas le péché, ça n'a pas... Savez-vous que ça n'a pas changé parce qu'on est dans les années 2000? Ça a toujours été le même. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne change jamais.
Amen.
Maintenant, le plus gros problème avec la chrétienté moderne, c'est que toute l'approche ou la pensée de cette chrétienté est erronée. Et je la résume ainsi. Le but de l'Église, okay, selon la chrétienté moderne, c'est de bien me sentir par rapport à moi-même. N'est-ce pas vrai? Et n'est-ce pas la philosophie humaniste qui est rentrée dans l'Église? Il faut que je me sente bien par rapport à moi-même. Puis là, il y a toutes sortes de façons de décortiquer ça, mais en résumé, ça se résume à ça. Alors que le but de l'Église, là, c'est de tomber humblement sur nos faces, être émerveillé par rapport à un si grand Dieu qui nous a fait une si grande grâce en Jésus-Christ, de se rassembler ensemble pour célébrer ce grand Dieu, ce grand salut. OK? Mes amis, il y a quelque chose que lorsqu'on rencontre Dieu, on le vit avec Ésaïe, qui nous saisit, on est saisi par la sainteté de Dieu. Parce que, OK, je vais vous l'illustrer comme ça. Il y avait deux hommes dont Jésus parle. Puis un qui était rempli de sa justice propre, qui s'élevait devant Dieu. On parle beaucoup de ça, je veux m'élever. Alors que, qu'est-ce que celui qui est parti justifié, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tapait la poitrine.
Et il dit pas qu'on doit pas se réjouir dans le Seigneur, puis il n'y a pas un temps pour exalter le Seigneur, mais ça commence toujours en se rendant compte de qui nous sommes devant ce Dieu. Puis là, une fois qu'on est humilié de même, là, on exalte sa grandeur. Ça prend le point de départ, le bon point de départ. Si on veut exalter la grandeur de Dieu, il faut voir comment nous, on n'est rien, comment on est des pécheurs, puis que c'est par sa grâce qu'on peut l'exalter de même. Puis encore plus grand est la louange quand on voit comment Dieu était bon envers des pécheurs comme nous autres. Le point de départ est mauvais. Ah, oh, je vais à l'église, puis je veux être exalté. Je veux... Attends un peu, là. Tu comprends-tu qui te va adorer? C'est vraiment l'idée qu'il faut saisir que Dieu est saint. Et c'est ce à quoi... Vraiment, la chrétienté moderne a passé complètement à côté. Et je vais amener une application par rapport à ça. Vous savez, la chrétienté moderne se donne bien de la misère, perd beaucoup de temps. À essayer, bon, les Anglais appellent ça être « seeker-friendly ». OK? Pour comment rendre l'Église de culturellement... Là, j'ai le mot. Enfin, c'est des affaires que je lis en anglais. OK. Culturellement relevant. Approprié. Culturellement approprié. OK. Comment être au goût du jour pour attirer les gens? Juste une petite application par rapport à ça. OK. Si on croit que Dieu est saint, OK. Si on est convaincu de ça, là, on croit qu'il peut faire ce qu'aucun homme peut faire. Puis on croit qu'il veut le faire aussi. N'est-ce pas que Dieu a un amour qui est incroyable? Dieu est tout puissant. Si vraiment on croit ça, pourquoi est-ce qu'on s'évertue à essayer de faire ce que juste lui peut faire? Mm-hmm. Puis en passant, seeker-friendly, j'aime pas l'expression, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui cherche ceux qui le cherchent même pas. Vous irez voir dans vos Bibles, là, mais c'est ce que ça dit. Nul ne cherche Dieu, puis Dieu est celui qui va auprès du pécheur. C'est celui qui a envoyé Dieu, qui a envoyé Jésus dans le monde. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et on peut, si on croit que Dieu est vraiment Dieu, puis qu'il dit ce qu'il promet... Comme ça revient à se dire, nous, on a juste à élever Christ au milieu de nous autres, de montrer comment il est incomparable, parce que la croix, ça révèle, c'est l'ultime révélation de la sainteté de Dieu. La résurrection, ça montre que c'est complètement accompli. Si on fait juste proclamer ce message, Dieu va attirer les hommes à lui. C'est ça notre responsabilité, c'est Dieu qui sauve. Qu'on garde Dieu saint, haut, élevé comme il est, puis Dieu va attirer les pécheurs. On n'a pas besoin de se rabaisser au niveau de l'homme. Voyez-vous l'erreur de cette chrétienté moderne? C'est pas qu'il faut qu'on se rabaisse au niveau de l'homme, il faut qu'on l'élève. Dieu, où est-ce qu'il est? Puis Dieu va sauver. C'est la folie de la prédication qu'il prend pour sauver les pécheurs. On a laissé la sagesse humaine, l'ingéniosité humaine dicter comment on va conduire les services, comment on va se conduire dans l'Église du Dieu vivant. On a passé complètement à côté de Jésus-Christ par le fait même. Puis en passant, quand on regarde l'Église naissante du livre des Actes, quelle belle Église, hein? Comme un petit bébé qui vient au monde, tout pur, tout beau. Puis même, on l'a vu dans Actes 5, Dieu s'en occupe, même avec des problèmes qu'il peut avoir. Mais on voit qu'il y avait une croissance. Hein? Là, ça parle, 3000 ont été rajoutés, le 5000, donc on voit vraiment une croissance, mais aussi on voit une croissance qualitative. On voit qu'il y avait un amour les uns pour les autres. On voit ici qu'ils prenaient soin les uns des autres. Et j'aimerais vous dire que si on veut grandir numériquement, il faut qu'on grandisse dans le Seigneur. Tout commence avec Dieu. On a fait le problème, c'est qu'on a fait de la fin, on en a fait le début. Ah, il faut qu'on grandisse. Non, si on fait confiance à Dieu, qu'on prêche l'Évangile, qu'on est fidèle, puis qu'on laisse Dieu être Dieu, puis que nous, on grandit en lui, puis qu'on lui fait confiance en étant fidèle à ses méthodes, à ses voies. Dieu, c'est lui qui donne la croissance. N'est-ce pas ce que ça dit aussi dans la Bible? Et Dieu ajoute, le Seigneur ajoutait à l'Église. Ça ne dit pas l'ingéniosité de Jean, Pierre, puis ajoutait à l'Église. Ça ne dit pas Pierre, puis c'était des instruments, puis Dieu les a utilisés, mais c'est Dieu qui ajoutait. C'est Dieu qui sauve. Le salut vient de l'Éternel. Ce que l'Église de Jésus-Christ a le plus besoin en ce moment, c'est pas des nouvelles méthodes de marketing. Certainement pas. Mais d'une meilleure appréhension, une appropriation et une adoration du Dieu trois fois saint. Être saisi par sa sainteté. Parce que ça, ça change tout. Quand le peuple de Dieu est saisi par qui Dieu est, les gens qui rentrent, ils voient des gens qui ne sont pas comme le reste du monde. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce que le monde a besoin. Plus que jamais. Lorsqu'une église comme la nôtre est saisie par la sainteté de Dieu, elle va proclamer, pratiquer et protéger l'évangile pur et tel qu'il est. Puis c'est comme ça que Dieu va être utilisé. C'est ça que Dieu utilise dans sa sagesse. Okay, ça fait plus que 2000 ans que c'est de même. Demandez-moi pas tout comment, mais c'est ça que Dieu fait. Il prend les choses folles, il prend des gens comme nous autres, bien ordinaires, mais quand il, lui est au centre d'une assemblée comme la nôtre, c'est ça qu'il va prendre pour faire une différence dans ce monde-ci. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, comprenez-vous comment c'est une folie quand on veut adapter ce Dieu-là pour être culturellement approprié? Je veux dire, c'est un non-sens. Puis en passant, en parlant de culture, là, ces gens-là, là, sans éducation, sans prestige, eux autres ont changé la culture de leur temps avec l'évangile de Christ. Avec ce que je vous dis là, en laissant Dieu être Dieu au milieu de leur assemblée, ils ont dicté la culture. On a une culture qui a été façonnée par ce qu'eux autres ont fait. Ils ne sont pas posés la question autour d'un café, comment on va être approprié à la culture gréco-romaine, à la culture judaïque qui est influencée, ceux qui sont à Jérusalem, ceux qui sont allés. Ils ne se cassaient pas la tête avec ça. Ils prêchaient Christ, Christ crucifié, ressuscité des morts, puis Dieu a fait des choses grandes et extraordinaires avec ça. Est-ce qu'on est plus sage que les apôtres? Est-ce qu'on est plus sage que Dieu qui nous dit que ça fonctionne de même? Mes amis, c'est de l'humanisme là, qui est rentré dans l'Église. C'est un affront au fait que Dieu est Dieu. Il faut qu'on voit, c'est, mes amis, c'est Dieu, c'est dans sa grâce qu'il n'a pas frappé la chrétienté moderne, mais peut-être qu'il est en train de le faire parce que ça ne tient plus la route ben, là, ce pragmatisme puis cet humanisme. Me dire, ça ne tient pas là, quand on est dans des circonstances comme on est. Maintenant, je vais décrinquer un peu, là. Puis je vais conclure avec ça. Faut juste voir que, dans le fond, OK, avec l'Église de Dieu, c'est pas comme s'il y a une option. OK, qu'à notre guise, on peut dire, OK, on va faire ça comme ci, comme ça. Non. Le fait que Dieu est saint, ça dicte tout le reste. Parce que vu que Dieu est Dieu, puis quand il est au centre de nous, c'est nous qui se replace tout. On répond à qui Dieu est. C'est pas nous, ah, ben OK, Dieu va répondre à qui on est. Non, nous répondons à qui Dieu est. Et c'est là qu'on comprend que il y a vraiment une honte du fait qu'on a mis l'homme au centre alors que c'est la place de Dieu qui devrait y être. On a laissé Satan, le monde, redéfinir la nature même de l'Église. Puis on n'avait pas besoin de casser la tête avec ça. Dieu l'a déjà fait. Il nous a déjà dit comment est son Église, comment elle est caractérisée. Donc je pense que ça veut dire... Puis bon, est-ce qu'on est la chrétienté moderne? Oui. Est-ce qu'on l'est pleinement? Est-ce qu'on est aussi pire que l'autre? Non. Mais la Bible nous dit que quand on se compare les uns avec les autres, on manque de sagesse. On fait juste manifester notre folie. Je pense qu'on a besoin de se repentir ce matin de la folie, de l'arrogance, de tomber dans le piège, de se mettre au centre, de se trouver don important. Alors que le centre de l'Église de Dieu, de nos vies, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je veux terminer avec ça ce matin. On doit implorer Dieu de nous, qui se révèle à nous pour qu'on puisse vivre à la lumière de qui il est. Cette sainteté transformante, magnifique que Dieu a parmi son peuple. Et si vous êtes ici et vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas encore été saisi par le fait que Dieu est terrifiant. Oui, il est un Dieu dévorant, mais la Bible nous dit « Voici maintenant le temps favorable, voici aujourd'hui le jour du salut. » Et savez-vous quoi? Pourquoi c'est favorable? Parce que la colère de Dieu qui repose sur vous est tombée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu a fait ce que vous ne serez jamais capable de faire. Essayez pas de faire ce que Dieu a fait. Vous ne pouvez pas apaiser la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas expier vos péchés. Christ l'a fait une fois pour toutes. La question maintenant, c'est est-ce que vous allez vous fier 100% pas 99, pas 99.9, 100% dans l'œuvre de Christ pour le salut de votre âme. Et pour vous qui êtes ici, qui êtes sauvés ce matin, je l'ai dit à plusieurs reprises, le peuple de Dieu a besoin de remettre Dieu au centre, haut, exalté, élever la croix de Christ, le fait que notre Dieu est vivant. Pourquoi on n'irait pas devant Dieu puis l'invoquer? De remplir notre vision, nos cœurs, de comment il est ce Dieu incomparable, puis comment toutes les autres affaires vont toutes pâlir en comparaison, mes amis. Qu'on puisse vraiment aller à Dieu dans cet esprit ce matin. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es, ô exalté, incomparable en sainteté. Mais en même temps, tu es avec celui qui a le cœur brisé, l'esprit contrit. On te remercie pour ça, Seigneur, et on vient à toi de cette manière ce matin. Ô, on reconnaît, on a péché contre toi, par notre hypocrisie, notre duplicité, notre tendance tellement naturelle à se remettre nous autres au centre de l'univers. Quelle folie, Seigneur, aie pitié de nous autres. On veut, Seigneur, toi t'exalter. Dans le cœur de chacun ici qui est régénéré par le sang de Christ, notre plus grand désir, c'est de t'exalter. Seigneur, on t'exprime ce désir ce matin. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Que toi, tu sois grand, élevé, et que nous, on soit effacés, complètement mis de côté, parce que c'est toi qui mérites l'honneur, la gloire et la louange. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.
C'est pour ça qu'on dit que...